En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Tout au long de l'année 2011, lors d'une des séances de l'Académie des sciences morales et politiques, chaque académicien est invité à évoquer un sujet sur lequel il travaille ou sur lequel il a tout simplement envie de s'exprimer. Les sujets abordés sont donc très divers. Canal Académie vous propose d'écouter maintenant la communication de la séance du lundi 23 mai 2011, au cours de laquelle Renaud Denoy de Saint-Mard, ancien vice-président du Conseil d'État et actuellement membre du Conseil constitutionnel, a abordé la question « Les animaux ont-ils des droits ?»
Bien, mes chers confrères, si vous le voulez bien, la séance est ouverte. J'invite aux honneurs de la séance Madame Maia Simionescu, membre de l'Académie roumaine et président de la section biologie, ainsi que Monsieur Eugène Simion, qui est correspondant de notre Académie et ancien président de l'Académie roumaine. Je mets à l'approbation de l'Académie le procès-verbal de la séance précédente, c'est-à-dire du lundi 16 mai. Le procès-verbal est entériné avec enthousiasme.
Et on demandait à être excusé à la séance de ce jour. Monsieur Gérald Antoine, Pierre Bauchet, Raymond Boudon, Rémi Braque, Bertrand Collant, Bruno Cotte, Michel Crozier, André Damien, Mesdames Delmas Marty et Dulon Saint-Denis, le cardinal Etchegaray, Messieurs Lucien Israël, Alain Planté, Christian Poncelet, Bernard Saint-Sernin et Jean-Claude Trichet.
Bien, merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Il n'y a pas d'autres éléments dans la correspondance. Y a-t-il des dépôts d'ouvrages ? Il n'y a pas de dépôt d'ouvrage, tellement tout le monde avait hâte d'entendre cette communication tout à fait inédite et inattendue sur les animaux ont-ils des droits. Le choix de ce sujet qui ne m'incombe absolument pas, sinon que, comment dire, il a été évoqué entre nous, témoigne en tout cas d'une vérité dont je suis persuadé depuis très longtemps, c'est qu'on peut être chasseur et ami des animaux, que la chasse fait partie de la définition de l'humanisme, et ce, depuis 100 à 200 000 ans. Mon cher confrère, vous avez la parole.
La communication étant faite, je peux me taire. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs, chers confrères, depuis que notre président m'a proposé ce sujet de communication que j'ai accepté, je me suis documenté. Certes, je n'ai jamais pensé que les animaux puissent être sujets de droit. Mais il m'a paru nécessaire de confronter cette opinion à la thèse opposée, et j'ai découvert, d'ailleurs avec une certaine surprise, une littérature abondante en langue anglaise, mais aussi en français, de nature philosophique, mais aussi juridique, qui tente à affirmer l'existence de droits au profit des animaux ou qui milite en faveur de l'attribution de tels droits assimilables à certains des droits de l'homme. Une déclaration universelle des droits de l'animal a été adoptée par la Ligue internationale des droits de l'animal à Londres en 1977 et elle a été proclamée au siège de l'UNESCO à Paris le 15 octobre 1978. Alors, il y a une certaine ambiguïté là-dedans. L'UNESCO leur a prêté une salle, mais ça n'est pas une convention internationale de l'UNESCO. Je m'en réfère à notre confrère Gilbert Guillot. Alors, cette déclaration universelle a été révisée en 1989 et le texte révisé a été rendu public en 1990. Je ne peux pas résister à certaines citations. D'abord, les motifs. Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers. Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales. Article 1er, tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Bien. Article 2. Toute vie animale a droit au respect. Article 4. L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s'y reproduire. Article 8. Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et toute décision conduisant à un tel acte constitue un génocide. Article 9. La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux. Alors, son style, qui s'inspire, vous l'avez remarqué, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, provoque, à mes yeux en tout cas, davantage la désapprobation ou l'ironie qu'il n'entraîne l'adhésion. Certes, notre société porte aujourd'hui son attention aux animaux. La morale communément admise, mais aussi la loi, réprouve les mauvais traitements aux animaux. S'y ajoutent aujourd'hui les considérations tirées de la nécessaire préservation de l'environnement, que la charte de 2004, adossée à la Constitution, selon l'expression même du président de la République de l'époque, ça ne veut pas dire qu'elle lui tourne le dos, mais ça veut dire qu'elle est annexée à la Constitution, a érigé en intérêt fondamental de la nation. Mais, consciemment ou non, malgré cette charte, malgré Darwin, malgré la théorie de l'évolution, le sens commun, du moins je le pense, dans nos sociétés occidentales, établit une nette frontière entre l'homme et l'animal et admet bien volontiers que l'homme règne sur le monde végétal et animal, c'est-à-dire que nous acceptons sans difficulté les premières lignes du livre de la Genèse, que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre, et que l'homme soumette la terre. Au demeurant, notre charte de l'environnement, à laquelle je faisais allusion il y a un instant, conserve cet aspect humaniste. L'animal n'y est pas traité. L'environnement est considéré comme le patrimoine commun des êtres humains. Aucun des 10 articles qu'elle contient ne concerne directement les animaux, ou, pour parler comme les partisans de la thèse du droit des animaux, ne traite des animaux non humains. Parce que, voir que c'est bien la thèse centrale. Cependant, un mouvement d'idées, très minoritaire, me semble-t-il, encore que très militant, conteste cette conception du monde. Il influe plus ou moins consciemment sur les comportements et les propos de nos contemporains. Alors, je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques années, des ours originaires de Slovénie ont été relâchés dans les Pyrénées. Je dis bien originaires de Slovénie et non pas slovènes, car on n'a pas encore attribué une nationalité aux animaux. L'un d'eux avait été dénommé Balou. Je dis dénommé et non pas baptisé, car l'Église n'a pas encore reconnu ce sacrement pour les animaux. Or, il advint assez vite que Balou disparut. Le collier émetteur dont on l'avait doté n'émettait plus aucun signal. Quel avait été le sort de cet animal ? Le ministre de l'Environnement, je devrais dire la ministre, je crois, de l'Environnement, fit part à la presse de sa vive inquiétude. Il s'exprima à peu près en ces termes. « Si Balou a été assassiné, la répression sera sévère. » Assassiné ? Quel terme assimilant la mise à mort supposée d'un animal au meurtre avec préméditation d'une personne, car c'est la définition que nous donne le code pénal de l'assassinat. En tout cas, la formule est révélatrice de ce qu'inconsciemment, un responsable politique ne fait plus vraiment la distinction entre l'homme et l'animal. Alors, pour continuer l'anecdote, je voudrais vous rassurer sur le sort de Balou. Balou était bien mort, mais il n'avait pas été assassiné. Il était tombé d'une barre rocheuse et s'était tué dans cette chute. Je relève par parenthèse que les partisans du maintien de l'ours dans les Pyrénées, dont je fais partie, ont une leçon à tirer de cette affaire. En Slovénie, les ours vivent dans un milieu moins accidenté que les Pyrénées et plus fréquenté par l'homme. Sans doute aurait-il fallu tenir compte de ces données, ce qui aurait pu éviter à la fois l'accident de Balou et le nomadisme d'un autre ours de la même origine, retrouvé dans la plaine non loin de la route menant à Toulouse. Il retrouvait des endroits moins accidentés et la présence de l'homme. Bref, je ferme cette parenthèse et je reviens au sujet qui nous retient. Mais cette anecdote, comme beaucoup d'autres, voyez par exemple la publicité télévisée pour l'alimentation des chats, qu'on voit en général juste avant ou juste après le journal télévisé de 20 heures sur les grandes chaînes, révèle qu'on ne sait plus très bien quelles sont les relations qui doivent s'établir entre l'homme et l'animal. La définition scientifique de l'animal est extrêmement large, je me suis reporté au grand Robert, est un animal, tout être vivant, possédant les caractéristiques de la sensibilité, de la motilité et de l'hétérotrophie, c'est-à-dire qu'à la différence des plantes qui sont autotrophes et qui se nourrissent de leurs substances, l'animal se nourrit de substances organiques qu'il trouve en dehors de son propre organisme. Bien. Alors cette définition englobe assurément l'homme. Mais ne nous compliquons pas les choses, si vous le voulez bien. Si nous évoquons les droits des animaux, c'est que par hypothèse, nous distinguons les animaux de l'homme. Et je vous prie de bien vouloir accepter ce postulat de départ sans que j'aie besoin d'en démontrer la justesse. Mais même en éliminant l'homme et en ne prenant en considération que les animaux non humains, pour employer le langage des partisans de cette thèse, on voit que la catégorie est très vaste, puisqu'elle englobe d'une part les grands mammifères terrestres ou marins, et d'autre part l'éponge, l'huître, et même des espèces moins visibles, encore qu'elles soient très répandues, telles celles qui constituent le krill marin dont se nourrissait le docteur Bombard lorsqu'il a traversé l'Atlantique. D'ailleurs, ça ne l'a pas très bien nourri. Enfin, il est dès lors bien difficile de doter le monde animal non humain d'un statut juridique uniforme qui puisse au moins en partie satisfaire les revendications des défenseurs des droits de l'animal. Englober à la fois les crevettes microscopiques du krill et les cétacés n'est pas très facile. Jusqu'à présent, dans notre droit, les animaux sont des choses. Il en va de même, d'ailleurs, dans le droit anglo-saxon. Le droit allemand et le droit suisse affirment que les animaux ne sont pas des choses, mais que le droit applicable aux choses les régit, sauf dispositions particulières. Il s'agit donc d'une affirmation à portée surtout symbolique. Alors, l'animal libre, sauvage et res nullius, il n'appartient à personne. Sa capture ou sa mise à mort en fait une chose appropriée par celui qui l'a capturé ou mise à mort. Mais des restrictions existent à la capture ou à la mise à mort des animaux de certaines espèces qui sont protégés en raison de leur rareté et de leur fragilité. L'appropriation d'un animal vivant a un effet sur sa descendance éventuelle. L'appropriation d'un animal vivant en fait une chose qui est la propriété de son maître. Et il en va de même de sa descendance éventuelle. Les petits des animaux appropriés sont également appropriés. Et l'animal approprié est un bien meuble qui est dans le commerce. Il peut être cédé à titre gratuit ou onéreux. Le droit américain reconnaît même un droit de propriété industrielle sur certaines espèces. Paraît-il que une certaine souche de souris de laboratoire a pu faire l'objet d'un brevet aux États-Unis. Enfin, nous ne sommes pas là, mais en tout cas, pour nous, c'est une chose dans le commerce, sans l'ombre d'un doute. Une exception, les animaux attachés à un fonds immobilier sont immeubles par destination. Il s'agit des animaux attachés à la culture. Dans notre pays, c'est de plus en plus rare. Les lapins des garennes, et les pigeons des colombiers et les poissons des eaux closes. Alors, les lapins des garennes, ce n'est pas les lapins de garennes. Le lapin de garennes, Oryctolagus, c'est res nullius. Mais c'est l'Oryctolagus vivant dans des lieux aménagés en bois ou en pierre, aménagés par l'homme dans des endroits en général non éloignés de son habitation, qui deviennent les lapins des garennes, qui sont immeubles comme les garennes elles-mêmes et comme la forêt ou le bois dans lequel cette garenne est implantée. Et les poissons des eaux closes, ben c'est les poissons qui sont soit dans des étangs, soit dans des enclos piscicoles, c'est-à-dire des eaux vives, mais qui sont séparées du reste du ruisseau par des grilles qui empêchent à ces poissons de passer dans les eaux libres. Voilà l'essentiel du droit positif. Alors, il existe cependant des théories qui tendent à reconnaître des droits à l'animal, en général, ou aux animaux de certaines espèces, plus particulièrement. Alors, ces théories ne me paraissent pas fondées, ce qui n'empêche pas que l'homme ait des devoirs à l'égard des animaux ou à l'égard de certains d'entre eux. Voilà ce que je vais vous dire au cours des minutes qui suivent. Je ne prétends pas ici dresser un ample tableau du sujet à travers le temps et l'espace. Je n'évoquerai ni le droit romain, ni les procès faits aux animaux au Moyen-Âge, qui étaient d'ailleurs des procès faits contre le propriétaire de l'animal et non pas contre l'animal. Je ne traiterai pas des rapports de l'homme et de l'animal dans d'autres sociétés et d'autres civilisations que la nôtre, que je connais fort mal d'ailleurs. Je me bornerai à évoquer la question telle qu'elle se pose en Europe occidentale depuis la fin du XIXe siècle. Alors, la thèse selon laquelle les animaux disposeraient ou devraient disposer de droits est récente. Elle prolonge un mouvement d'opinion beaucoup plus ancien, fondé sur la nécessité de protéger les animaux. Ce sont des considérations morales qui sont à l'origine du mouvement de protection des animaux. Il est né en Angleterre, au début du XIXe siècle, heurté par le spectacle de l'abattage des animaux de boucherie en public, les mauvais traitements infligés aux animaux de trait, le comportement des spectateurs de certains divertissements populaires comme les combats de coqs ou le bullfighting, qui consistait à faire combattre un taureau entravé et des molosses. Des sociétés protectrices d'animaux sont instituées à Londres et se développent. Leur objet tend surtout à élever l'âme du peuple, à lutter contre ces mauvais penchants. La protection des animaux publiquement maltraités étant donc plus un moyen qu'une fin. Et ce mouvement touche le continent, et la France en particulier, à partir du milieu du XIXe siècle. Il trouve le relais des milieux de l'aristocratie qui professent les mêmes soucis d'éducation populaire, d'où la loi Gramont de 1850, ainsi que la sensibilité romantique. Les grands poètes romantiques ont exalté les sentiments prêtés à certains animaux, en général des animaux domestiques, et encouragé l'éducation et la bientraitance des animaux. En témoigne, entre autres exemples, le poème « Le crapaud » de Victor Hugo dans « La légende des siècles » qui ne figure pas dans la très belle anthologie de notre confrère Xavier Darcos. Ce poème est inséré entre deux autres fort célèbres, après la bataille, d'une part, les pauvres gens de l'autre, qui illustre le sentiment de pitié entre humains. Je ne ferai pas l'injure de vous rappeler le thème d'après la bataille et celui des pauvres gens. Le crapaud est moins connu. Le poème, le crapaud, est moins connu. Il narre l'histoire de jeunes enfants qui maltraitent un crapaud et veulent l'achever en le faisant écraser par la roue d'un lourd chariot tiré par un âne. Mais l'âne, cet animal soi-disant borné, fait l'effort de dévier la marche de son fardeau et le crapaud se trouve épargné. Alors, lâchant la pierre échappée de sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon ». Ce mouvement d'idées s'intéresse surtout aux animaux proches de l'homme et professe la valeur éducative des bons soins aux animaux, qui est bon pour les animaux, sera bon pour ce prochain. Tout le monde connaît cette morale puérile et honnête. Alors, ce mouvement s'est ensuite diversifié et amplifié. Un nouvel objet s'offre à son action, la vivisection. En Grande-Bretagne, et cela nettement plus qu'en France, des ligues sont constituées pour demander que la vivisection soit interdite, et ces ligues demeureront très actives pendant très longtemps. En outre, la volonté de protéger les animaux s'étend aux espèces sauvages. Prenant conscience de la disparition de certaines espèces animales, c'est le cas du dodo, on le sait, à l'île Maurice dès le XVIIe siècle, cet oiseau sans ailes était effectivement fragile. Des sociétés zoologiques se constituent. Ainsi, en France, la Société zoologique d'acclimatation est créée à la fin du XIXe siècle. Il en sera issu la Ligue pour la protection des oiseaux, encore très active de nos jours. L'apparition et le développement de l'élevage industriel des animaux attire également l'attention des défenseurs des animaux. Et cette préoccupation est encore très vivante de nos jours, même en France. Elle est à l'origine du mouvement végétarien, végétalien ou véganiste. Et végétarien, vous le savez, celui qui renonce à manger de la viande. Et végétalien, celui qui étend la prohibition par conviction et non pas pour des raisons de santé, au poisson, au lait, aux œufs, au fromage, au beurre. Est enfin véganiste, la personne qui renonce à l'usage de tout produit d'origine animale, même pour se vêtir ou pour sa commodité. Il prohibe la fourrure, le cuir, la laine, etc. Le militantisme végétalien est à la mode. Le livre d'un auteur américain, Jonathan Safran Foer, vient d'être traduit en français sous le titre « Faut-il manger les animaux ?». Alors, il justifie la prohibition de l'alimentation carnée par le traitement infligé aux animaux dans les élevages industriels, qui est effectivement assez redoutable. La publication de la traduction en français de cet ouvrage rencontre l'écho de la presse. Voyez par exemple le dernier exemplaire de la revue Books, qui malgré son titre est une revue rédigée en français, et le numéro du Point du 19 mai 2011, que nous avons pu trouver opportunément sur notre table il y a quelques jours, mais il n'apprend pas grand-chose sur le sujet. Enfin, se diffuse dans la population un sentiment d'attendrissement général à l'égard de la faune, favorisé par la photographie et le cinéma, Walt Disney et Bambi, Cousteau et le monde du silence, Brigitte Bardot et les bébés phoques. On ne dit pas les petits phoques, on dit les bébés phoques. L'autre jour, à la télévision, à propos de la sécheresse qui sévit dans notre pays, on prenait des alevins de brochets dans des ruisseaux pour les remettre dans des bassins et le journaliste disait « on reprend des bébés brochets ». Bon, Brigitte Bardot et les bébés phoques et les bébés brochets, la radio et la télévision, Nos amis les bêtes, qui a été une émission du docteur vétérinaire Méry qui a eu un énorme succès. Et de cette tendance, d'ailleurs, ont profité et continuent de profiter bien des intérêts commerciaux, à commencer par l'élevage et la nourriture des animaux de compagnie. Mais comme rien n'est simple, l'opinion s'émeut aussi des dangers que représentent certains animaux domestiques. En France, ces dernières années, le législateur est intervenu 3 fois pour prendre des mesures de prévention ou de répression à l'égard des chiens dangereux. Les propriétaires de chiens appartenant à l'une des races réputées dangereuses doivent être titulaires d'un titre de capacité, une sorte de permis de conduire, et d'un permis de détention, une sorte de carte grise. Avant l'âge d'un an, le chien doit être soumis à une évaluation comportementale. Et enfin, auprès des pouvoirs publics, est institué un observatoire national du comportement canin. C'est en quelque sorte le répertoire des infractions commises par les chiens, le casier judiciaire des chiens. Marginalement, des groupuscules se manifestent de façon violente contre les entreprises de production d'animaux de laboratoire, le commerce de la fourrure, la chasse et notamment la vénerie. Ce phénomène a été constaté surtout en Grande-Bretagne, d'ailleurs abouti à l'interdiction de la vénerie en Grande-Bretagne, interdiction qui n'est pas respectée d'ailleurs, mais n'a pas épargné la France. Mais à côté de ces mouvements d'opinion, inspirés plus par le sentiment que par la raison, une réflexion théorique s'est développée en faveur de la reconnaissance de droits au profit des animaux. Cette réflexion a d'abord été philosophique, elle s'est ensuite étendue sur le terrain du droit. Elle est partie, la réflexion philosophique est partie du constat de la douleur subie par les animaux regardée comme équivalente à la souffrance de l'homme. Il y a donc une nécessité, nous dit-on, sur le plan moral, à accorder à la douleur une égale considération, qu'elle affecte l'homme ou tous les êtres sensibles, quelle que soit leur espèce. C'est à un Britannique qui s'appelle Richard Rider qu'on doit cette théorie de l'antispécisme. Le spécisme, selon lui, c'est l'attitude qui consiste à établir une barrière entre cet animal qu'est l'homme et les animaux non humains. Et ce mot a été proposé, vous le devinez, par analogie avec les termes racisme et sexisme. Le racisme puis le sexisme ont été dénoncés et combattus. L'heure est venue de combattre le spécisme. Richard Rider se joint à un groupe de jeunes chercheurs en philosophie à Oxford et le groupe d'Oxford publie en 1972 un ensemble d'études sous le titre, je traduis parce que je crois que l'ouvrage n'a pas été traduit en français, « Animaux, hommes et morale, une enquête sur la maltraitance des non-humains ». Un autre auteur, australien celui-là, Peter Singer, publie en 1975 un ouvrage intitulé « La libération des animaux ». En 1976, un auteur américain, Tom Regan, se joint à Peter Singer pour publier un autre ouvrage important pour la thèse des droits des animaux qui s'intitule « Droits des animaux et obligations de l'homme ». Je l'ai dit, ce mouvement d'idées part du constat de la souffrance, qui est un critère pertinent de considération morale. La souffrance est partagée entre l'homme et l'animal non humain. Il faut donc donner à l'animal non humain un statut moral et lui reconnaître des droits. Telle est la thèse générale de tous ces auteurs. Alors, deux questions se posent alors. Quels droits et à quels animaux? À qui? Alors, les théories les plus extrêmes répondent à tous les animaux, quels qu'ils soient. Et les plus timides soutiennent aux grands singes seulement, et tant pis pour les petits singes, seulement les grands singes. Quels droits? Alors, sans doute, pas ceux qui ne leur serviraient à rien, comme disent certains auteurs avec humour, pas de droit de vote, ni celui de s'inscrire à l'université. Mais au moins les plus fondamentaux, ceux qui sont pertinents en raison des caractéristiques de ces animaux. En France, Madame de Fontenay, qui soutient la cause animalière, mais qui n'est pas antispéciste et qui est relativement mesurée, montre de la modération en mettant en garde contre l'attribution de droits qui seraient, je la cite, « maladroitement et outrageusement identiques aux droits de l'homme ». Alors, si on essaie de trouver le dénominateur commun de cette théorie, ces droits me semblent être au minimum de trois. Le droit au bien-être, le droit au respect et le droit de ne pas être traité comme un moyen pour les fins d'un autre. Dès lors que l'animal non humain a des droits, il a intérêt à les défendre. Il doit donc acquérir la personnalité juridique. Tout ça est parfaitement logique. À considérer cette doctrine, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle a quelque peu le caractère d'un jeu intellectuel. Leurs aspirateurs sont des spéculateurs, ils font de la philosophie, ils veulent enrichir la pensée éthique en lui ouvrant des perspectives nouvelles, et au fond, ils font de l'animal un objet nouveau de réflexion. Pourtant, certains, passant de la morale au droit, soutiennent que l'animal est un sujet de droit. Ainsi, en France, le professeur Jean-Pierre Marguénot, je le cite parce que j'ai lu son œuvre, mais il n'est pas seul, ils sont trois ou quatre au moins en ce sens. Le professeur Marguénot, qui doit être un ami de notre confrère Théré, pour qu'il lève la main, a soutenu cette thèse, notamment dans un article au Dalloz en 1998, je m'y suis reporté. Alors, en résumant cette opinion, le professeur Marguénot soutient que cette reconnaissance est nécessaire pour rendre effective la défense des animaux et que cette reconnaissance leur est d'ores et déjà acquise en droit français. Il en veut pour preuve que les sévices infligés aux animaux sont aujourd'hui réprimés en tant que tels et non plus seulement lorsqu'ils sont infligés en public, comme en disposait à l'origine la loi Gramont de 1850. que la loi de 1976 a énoncé que l'animal est un être sensible et est ainsi protégé pour lui-même, même contre son propriétaire, et n'est donc plus un bien. Et qu'enfin, les infractions réprimant les mauvais traitements aux animaux ne figurent plus au sein du code pénal dans le livre consacré aux infractions contre les biens. Dès lors, l'animal est une personne juridique protégée pour lui-même. Le droit dont il est titulaire doit être mis en œuvre, soit par son propriétaire, soit s'il s'agit d'agir contre le propriétaire, par les associations de défense des droits des animaux. Alors, cette thèse me semble extrêmement fragile pour ma part. Je commençais par contester la thèse exprimée en termes juridiques. Elle est hasardeuse en ce qu'elle conçoit la personnalité des animaux à travers une fiction juridique qui est le support des intérêts de l'animal, analogue en quelque sorte à la personnalité morale. Bon, certes, la personnalité morale est une fiction juridique. Tout le monde connaît l'adage « je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Mais cette fiction juridique a fait la preuve de sa vitalité, mais aussi de sa nécessité, et de sa vitalité à cause de sa nécessité, pour être le support d'un patrimoine, d'initiatives, de projets. C'est l'utilité économique et sociale qui justifie la personnalité morale, et on discerne mal des intérêts aussi cruciaux dans l'individualité de chaque animal. En outre et surtout, cette théorie me paraît inutile, car il n'est pas nécessaire de reconnaître des droits aux animaux pour affirmer que l'homme a des devoirs à leur égard. Les devoirs ne sont pas nécessairement la contrepartie des droits. Par exemple, les propriétaires de monuments historiques ont des devoirs, notamment de conservation et d'entretien que la loi leur impose. Ce monument n'a pourtant aucun droit. La même observation vaut à l'égard de la forêt, par exemple. Depuis les ordonnances de Colbert jusqu'au code forestier actuel, en passant par celui de la Restauration, les propriétaires de forêts, personnes publiques ou personnes privées, ont des devoirs à l'égard de la conservation de la forêt. La forêt publique, notamment, ne peut être aliénée qu'en vertu d'une loi. Certains ministres auraient pu s'en souvenir. Je ferme la parenthèse. Leur droit de propriété est limité en considération d'objectifs de protection des sols, la lutte contre l'érosion, la propagation des dunes, etc., et de préservation de la ressource en bois. Mais les arbres ni les forêts n'ont reçu de droit en contrepartie. Bref, notre droit accepte fort aisément que le droit de propriété soit limité en considération de l'intérêt qui s'attache à la chose possédée. De même, s'il est exact que les mauvais traitements aux animaux sont réprimés aujourd'hui, même s'ils ne sont plus infligés en public, cette modification de la loi ne signifie pas que les animaux ont été personnalisés. Tout simplement, la conscience collective considère que ces agissements sont contraires à l'ordre social, même s'ils sont perpétrés à l'abri du regard d'autrui. Il n'est pas conforme à la dignité de l'homme de se mal comporter à l'égard des animaux. En revanche, il est bien difficile de concevoir en droit l'existence d'une personnalité à laquelle ne seraient attachés que des droits mal définis, mais en tout cas étroitement délimités, sans que des obligations lui soient en contrepartie imposées. Car en droit, il n'existe pas de personnes qui ne répondent jamais de leurs actes. L'homme atteint de troubles mentaux répond civilement de ses fautes, et parfois même de ses agissements délictueux, tant que sa volonté et sa lucidité ne sont pas très gravement altérées. Si l'enfant en bas âge est irresponsable pénalement, il est responsable civilement des actes faits en son nom. Faut-il donc en revenir au procès fait aux animaux au Moyen Âge? Quant à la place dans le code pénal des dispositions réprimant les mauvais traitements aux animaux, qui sont insérées dans un titre résiduel, c'est vraiment prêté au codificateur des intentions profondes qu'il n'avait sans doute pas. Enfin, comme certains l'ont soutenu, c'était le cas du doyen Carbonnier, on peut s'interroger sur le point de savoir si cette thèse n'est pas à la vérité contre-productive. Est-ce que le corps social ne risque pas de se rebeller contre cette assimilation, même très partielle, très imparfaite, de l'homme à l'animal? Je laisse la question en suspens, mais elle est sérieuse. Quant à la thèse morale, elle n'est pas non plus exempte de critiques. Et à mes yeux, certaines de ces critiques doivent être très vives. L'antispécisme serait-il un progrès après l'antiracisme et l'antisexisme? L'assimilation de ces mouvements d'idées est au moins sujet à controverse. L'assimilation est risquée. Les deux premiers courants d'idées concernent l'être humain et le troisième, l'animal, sauf à considérer que les êtres non blancs, puis les femmes, ne sont pas ou n'étaient pas des êtres humains, ou à l'inverse, que les animaux sont assimilables à l'homme. Mais bien sûr, cette première proposition doit être écartée, et la seconde aussi, car même les antispécistes les plus convaincus conviennent qu'entre les hommes et les animaux non humains, pour employer toujours leur expression, il y a tout de même une distinction à faire. Il n'y a pas une totale assimilation, même dans l'antispécisme militant. Madame de Fontenay admet que nous avons 99% de patrimoine génétique en commun avec les chimpanzés, mais, dit-elle, ce qui est né de cette différence de 1% est inouï, à la fois par sa malfaisance et sa grandeur éthique. On ne peut qu'approuver ce point de vue, selon moi. En outre et surtout, la biologie ne peut pas à elle seule déterminer ce qu'est l'homme. Ni l'âme, ni la raison ne sont visibles au microscope. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les théories des droits des animaux partent toutes de la sensibilité à la douleur des animaux. Ce point de vue peut être contesté pour ce qui est de certains animaux qui ne sont pas dotés d'un système nerveux. Mais je parle. Admettons, sont bien fondés par postulat. Les théoriciens des droits des animaux nous disent « Enfoncer le couteau dans la cuisse du porc ou dans celle de l'homme produit le même effet. » C'est probable pour ce qui est de l'effet immédiat, mécanique, qui est sans doute le même. Je n'ai l'expérience ni d'avoir mis un couteau dans la cuisse d'un porc, ni d'avoir reçu dans ma cuisse moi-même un couteau. Mais l'homme, à la différence probable du porc, s'interroge sur la douleur, sa cause, sa signification, sa durée, la façon de la faire disparaître, la part de responsabilité qui peut lui incomber, ou celle qui revient à autrui, la vengeance ou le pardon, l'abandon ou la révolte. En outre, rien ne permet de penser qu'à côté de la douleur physique, l'animal, même le mammifère le plus évolué, connaisse la douleur morale, le préjudice d'affection, la peur du lendemain, l'angoisse, etc. Quant aux droits minimums qu'il faudrait reconnaître aux animaux, sont-ils vraiment nécessaires ? Le bien-être. Le bien-être est une notion à la fois subjective et légèrement teintée d'anthropomorphisme. Ne suffit-il pas de parler d'un bon traitement pour obtenir l'acquiescement de chacun ? Le respect. En français tout au moins, je ne sais pas ce qu'il en est en anglais, en français tout au moins, il y a dans ce mot une nuance de considération admirative qui n'est pas nécessaire pour qu'on s'accorde sur l'intérêt qui s'attache à la préservation des espèces animales et à ce qu'on dénomme, d'un mot d'ailleurs mal formé, la biodiversité. L'idée de protection suffit largement à satisfaire cet objectif. Le droit à ne pas être traité comme un moyen pour les fins d'un autre est, pour sa part, beaucoup plus problématique. Il est impossible même à observer. Cette affirmation ignore la prédation. L'agneau sera toujours considéré par le loup comme le moyen d'assouvir sa faim. Le droit qu'on veut ici reconnaître est bien problématique, c'est ignorer la réalité des interactions entre les animaux au sein du monde. Les gros mangent les petits, pour dire ça de façon un peu rapide. Les défenseurs des droits des animaux soutiennent enfin une position périlleuse. C'est le cas non seulement des maximalistes, mais aussi de ceux que j'ai qualifiés de timides, c'est-à-dire ceux qui ne veulent reconnaître des droits qu'au profit des grands singes. Ceux qui ne revendiquent des droits qu'au profit des chimpanzés, gorilles et orangs-outans. Cette dernière théorie est l'œuvre de Peter Singer, que j'ai déjà dénommé, et d'une femme qui s'appelle Madame Cavalieri. Alors elle est fondée, bien sûr, sur des travaux fort sérieux, certainement, de génétique, d'éthologie et de connaissance de l'animal, qui établissent la proximité entre ces animaux et l'être humain, et qui justifie l'assimilation des premiers aux seconds. Madame Cavalieri soutient qu'on justifie d'ordinaire le traitement différencié des êtres humains et des non-humains par une correspondance entre le fait d'appartenir à l'espèce Homo sapiens et celui de posséder les caractéristiques moralement pertinentes. Inversement, être non humain, c'est être dépourvu de ces mêmes caractéristiques, mais, continue-t-elle, d'une part, nous savons que nous partageons avec les autres animaux nombre de nos gènes et une histoire évolutive commune. D'autre part, et c'est là que le raisonnement à mes yeux devient dangereux et même choquant, elle soutient que l'espèce humaine comprend des individus irrévocablement dépourvus de caractéristiques jugées typiquement humaines, les handicapés mentaux, les demeurés, les séniles. Et on retrouve cet argument chez d'autres théoriciens, comme Peter Singer, que j'évoquais tout à l'heure, qui affirme que certains enfants gravement atteints ne pourront jamais atteindre le niveau d'intelligence d'un chien. Donc pourquoi reconnaître des droits à cet enfant et ne pas reconnaître aux animaux ? Dès lors, invoquer l'appartenance de ces enfants à l'espèce humaine comme base pour accorder un droit à la vie à l'enfant sans en accorder aux autres animaux constitue du spécisme à l'état pur. Ces arguments me laissent pantois, me coupent bras et jambes. Ils doivent être, me semble-t-il, rejetés avec la plus grande fermeté, l'enfant étant devenir un être conscient et raisonnable, et la personne atteinte de débilité mentale, même de naissance, est toujours prise en charge juridiquement, socialement et le plus souvent affectivement, heureusement, par une autre personne qui représente ses droits et ses intérêts. Et au fond, on ne peut pas vouloir humaniser les animaux en rétrogradant l'homme ou certains hommes. Voilà, les animaux, quels qu'ils soient, des grands mammifères aux insectes ou aux minuscules bestioles marines, n'ont pas de droit, au moins selon moi. Cela ne veut pas dire que l'homme n'ait pas des devoirs à leur égard, à l'égard des animaux domestiques, les animaux du foyer et les animaux dits de rente, c'est-à-dire les animaux d'élevage, ceux qui l'exploitent. L'homme a incontestablement des devoirs que la morale reconnaît dans toutes les civilisations contemporaines et même les civilisations très anciennes. C'est d'ailleurs aussi l'intérêt de l'homme. L'éleveur tirera un meilleur profit d'animaux convenablement nourris et bien traités et vendus au boucher en bon état. Ce devoir moral est sanctionné par la loi, c'est très bien. La notion de bien-être de l'animal, que je n'aime pas beaucoup, a cependant pénétré notre droit par l'intermédiaire de directives européennes, hélas, relatives au transport des animaux, à l'élevage des veaux, à l'élevage des porcs et à l'élevage des poules pondeuses. Le droit européen nous a obligés à introduire dans notre droit la notion de bien-être de la poule pondeuse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une cage qui lui permette quand même, la pauvre bête, d'étendre ses ailes. Et ça, je le comprends, mais je n'ai pas besoin de la notion de bien-être animal pour l'admettre. Bref. Alors, ce devoir, le devoir que nous avons, s'étend aujourd'hui à l'ensemble des espèces animales et végétales qui constituent son environnement reconnu comme le patrimoine commun des êtres humains. L'homme doit veiller au maintien des équilibres biologiques et écologiques, lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité, dont l'ampleur est aujourd'hui contestée d'ailleurs. Les grands spécialistes de la protection de l'environnement sont extraordinairement pessimistes. Je les ai fréquentés depuis les années 70 et j'ai toujours trouvé des gens prêts à nous dire qu'on était au bord de l'extinction d'une espèce, etc. Et on s'aperçoit que lorsque on laisse cette espèce un peu tranquille, lorsqu'on lui ménage son biotope, eh bien, tout repart. Bref. À ce titre, il est légitime que l'homme intervienne localement contre des espèces invasives, introduites accidentellement dans un milieu qui n'est pas le leur et qui viennent troubler la vie des espèces indigènes. Aujourd'hui, par exemple, en France, c'est le cas de deux oiseaux, l'ibis sacré, qui n'a rien à faire sur nos climats, et la bernache du Canada, qui a été introduite à partir de volières. Et de même, il est légitime que l'homme limite l'expansion d'espèces protégées trop prolifiques. C'était le cas du cormoran, que nous connaissons tous. Alors, de nombreuses conventions internationales ont été signées sur le thème de la protection des milieux et des espèces. La convention de Ramsar, par exemple, pour la protection des zones humides, des marais. La CITES pour la protection des espèces en danger. Et depuis une trentaine d'années, notre droit interne s'est considérablement enrichie en ce domaine. Je vous fais grâce de l'exposé de cette législation qui n'est pas du droit, mais qui est de la nomenclature. Dans le respect de ces impératifs, il n'est pas interdit à l'homme de se servir des animaux. La chasse, par exemple, je pense que certains d'entre vous auraient été étonnés que je ne dise pas un petit mot de la chasse. La chasse, par exemple, n'est ni illicite ni immorale, même s'il ne s'agit plus chez nous que d'une activité récréative. Sans doute doit-elle être conditionnée par une bonne connaissance du milieu et de la dynamique des populations des différentes espèces de gibier et par l'usage de modes de capture qui ne soient pas inutilement cruels. Son exercice permet de suppléer, dans certains cas, à l'insuffisance de la prédation naturelle. C'est certainement le cas aujourd'hui à l'égard des grands mammifères en France. L'exercice de la chasse contribue à la préservation de milieux naturels extrêmement riches, mais qui auraient disparu sous la pression de l'agriculture. C'est le cas des marais. Enfin, la chasse préserve des espèces vouées à la disparition par l'effet des progrès de l'agriculture. C'est le cas de la perdrix grise à l'égard de cet oiseau emblématique de toute la grande plaine d'Europe, de la Grande-Bretagne à la Russie. L'intérêt du chasseur rejoint celui de l'ornithologue. La chasse est, selon moi, un excellent moyen d'accéder aux sciences de la nature, à la compréhension des interactions entre l'animal sauvage et le milieu dans lequel il vit, les écosystèmes. Et en disant cela, je ne soutiens pas une thèse paradoxale. Alors, j'en conclus. Au nom de la conservation de la nature, nous jetons aujourd'hui un œil nouveau sur les animaux et les milieux dans lesquels ils vivent. C'est très bien. Mais la tentative de reconnaître ou d'attribuer des droits aux animaux demeure vaine. D'abord, le droit aurait bien du mal à appréhender l'animal avec un A majuscule, tant les espèces sont nombreuses et différentes, et tant le regard que l'homme pose sur ces différentes espèces est lui-même différent. Nous regardons le chevreuil avec un œil plus complaisant que le frelon. En second lieu, parce que le droit est conçu pour les personnes, l'homme est à la fois le sujet et l'objet premier de l'ordre juridique. Monsieur le Président, mes chers confrères,
Vous venez d'entendre Renaud Denoît de Saint-Marc. Le texte de sa communication est disponible à la lecture intégrale sur le site de l'Académie www.asmp.fr.